RCF.
Il est 7h30, voici le journal de la rédaction. Il nous est présenté par Jean-Baptiste Labeur. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. La maltraitance dans les maisons de retraite revient sur le devant de la scène avec les accusations qui visent le groupe Orpea. On y revient dans un instant. Changer de nom de famille plus facilement, c'est l'objectif d'une loi débattue à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et nous verrons que pour certains, changer de nom est une nécessité vitale. La crise ukrainienne et la fermeté des Occidentaux face à l'ours russe qui multiplie les manœuvres militaires.
Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée chargée de l'autonomie, va donc convoquer le directeur général du groupe Orpea.
Afin qu'il s'explique sur la situation dans ces établissements, le ministre de la Santé, Olivier Véran, n'exclut pas une enquête administrative. Conséquence des révélations du livre enquête « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet. Ce journaliste indépendant y dénonce les pratiques présumées du groupe Orpea, numéro 1 mondial du secteur des maisons de retraite privées. Les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents seraient rationnés pour améliorer la rentabilité. La direction d'Orpea conteste ces accusations. Les établissements privés, il faut le savoir, ne représente que 30% de l'ensemble des EHPAD en France. Pour Benoît Gaudiard, professeur agrégé en sciences médico-sociales à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, cette polémique repose la question d'une vraie politique du grand âge en France.
J'aimerais juste dépasser cette question un petit peu de cet ouvrage et du secteur privé lucratif. C'est même peut-être un peu le modèle de l'EHPAD qu'il faudrait un peu remettre en question, parce que vous avez 600 000 personnes en France qui sont en EHPAD, et sur ces 600 000 personnes, il y en a quand même une partie qui pourrait être prise en charge à domicile. Principalement, ce sont des gens très malades. Or, on sait aujourd'hui que les EHPAD ne sont pas du tout assez médicalisés. C'est le problème d'ailleurs avec ces structures privées qui mettent en avant une image hôtelière, parce qu'en fait, elles ont des publics qui sont de plus en plus malades et qui ont de très nombreuses pathologies. Et ça rentre aussi en résonance avec un autre problème qui est qu'est-ce qu'on fait pour éviter les situations de grande dépendance, sachant qu'aujourd'hui vous avez une politique de santé publique qui est absente de la question du vieillissement. C'est certainement la clé de voûte à explorer pour mettre en place une politique du bien vieillir en France.
Et 1635 cas de contamination en 24 heures, Jean-Baptiste, c'est le nouveau niveau record.
Le nombre d'hospitalisations en raison du Covid est, lui, repassé au-dessus de la barre des 30 000. C'est une première depuis la fin 2020. Les hôpitaux ont enregistré plus de 3 800 nouvelles admissions en 24 heures. Mais le nombre de patients en soins critiques reflue légèrement, selon Santé publique France. Lundi, c'est le nombre de décès qui avait bondi avec 400 nouveaux morts dus au Covid. Une première là aussi depuis avril 2020. De nombreux professionnels de santé s'inquiètent de ce bilan, comme Michael Rochois, médecin généraliste dans le Pas-de-Calais et membre du collectif du Côté de la Science. Et pour lui, les nouveaux traitements antiviraux arrivés sur le marché ne permettront pas de freiner la vague de décès de cette sixième vague.
En fait, il faut quand même se dire qu'il y a 500 000 contaminations par jour. Il n'y a pas de traitements qui sont disponibles pour ces 500 000 personnes, de toute façon, parce que c'est des traitements qui sont très spécifiques, qui sont réservés à une population très ciblée. Mais à partir du moment où vous avez 500 000 contaminations par jour, forcément, même s'il y a peu de décès, il y en a, et là, ça commence à faire beaucoup, en fait. Et tout le problème, il est là. Et en même temps, on n'a pas les traitements pour traiter tout le monde, et ce serait pas pertinent. D'ailleurs, potentiellement, on aurait peut-être plus d'effets indésirables si on donnait le même traitement à 500 000 personnes. Il faut que ça soit ciblé, il faut que ce soit chez des personnes qui sont immunodéprimées, pour lesquelles la vaccination n'arrive pas à être efficace parce qu'ils n'arrivent pas à produire les anticorps. C'est pas un traitement qu'on peut donner à tout un chacun dès que quelqu'un a le nez qui coule en disant c'est peut-être du Covid, on va donner le traitement.
Et toujours en France, face à la flambée des prix des carburants, ce coup de pouce du gouvernement à l'indemnité kilométrique.
Le Premier ministre Jean Castex a annoncé une revalorisation de 10% du barème de cette indemnité kilométrique pour les ménages imposés qui déclarent leurs frais professionnels. Cela pourrait concerner 2,5 millions d'automobilistes. Les mesures pour limiter cette fois la hausse des prix de l'électricité ne passent pas chez EDF. Les principaux syndicats du groupe ont lancé un appel commun à la grève aujourd'hui. Pour limiter la hausse des factures aux consommateurs, l'État a imposé à EDF d'augmenter le volume d'électricité vendu à prix cassé à ses concurrents cette année, ce qui devrait coûter à l'électricien jusqu'à 8 milliards d'euros. Explication de cette crise avec Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier et économiste spécialiste du marché de l'énergie.
Les fournisseurs alternatifs, ils ne produisent pas. Ils achètent sur le marché de gros.
ceux qui revendent au détail. Le problème, c'est que ça marchait tant que le prix de gros était inférieur au prix de vente au détail. À partir du moment où les prix de gros s'envolent, ils sont en très mauvaise posture, ils font un appel au secours, c'est ce qui se passe. Alors certains ont fait faillite, hein. Ça a commencé en France. Il y en a d'autres qui vont mettre la clé sous la porte, c'est vrai au Royaume-Uni. Donc si vous voulez, le problème, c'est un problème plus fondamental, c'est-à-dire c'est le fait qu'on a mis en place un marché européen de l'électricité pour un produit qui ne se stocke pas, qui est en plus un service public et dont le prix, aujourd'hui, pour des raisons très particulières, conjonction de facteurs défavorables, s'envole sur les marchés de gros. Donc, si vous voulez, c'est indépendant de ce qui se passe en France.
Au terme d'intenses débats, le Sénat a adopté cette nuit en première lecture le projet de loi pour demander pardon aux harkis et tenter de réparer les préjudices subis. Vote unanime des députés hier pour valider la loi interdisant les thérapies de conversion. Ces pratiques qui visent à imposer l'hétérosexualité aux personnes LGBT seront désormais punies de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
L'Assemblée nationale qui se penche sur le changement de nom.
C'est un parcours du combattant pour plus de 4000 personnes en France. Changer de nom de famille. En 2020, plus de la moitié des demandes ont été refusées. Les députés planchent aujourd'hui sur la simplification des démarches. Si cette proposition de loi est adoptée, il sera possible de prendre le nom de sa mère plutôt que son père, une fois majeur et une fois dans sa vie. Tout cela grâce à un simple formulaire administratif. Une démarche moins lourde qui suscite beaucoup d'espoir, Clara Gabillet.
Véronique n'attend que ça pour passer à autre chose.
Si c'est voté, je peux vous assurer que le 1er juillet, je suis à la mairie. Je vais tout à mon serfa et je le remplis.
À 50 ans, elle veut récupérer le nom de sa mère et se séparer de celui de son beau-père qui l'a violée plus jeune. Malgré son passé douloureux, le changement de nom de Véronique est refusé en 2018. Le motif n'est pas légitime selon les autorités.
Je n'avais pas suffisamment de preuves à apporter à mon dossier pour qu'on puisse dire qu'on change mon nom parce que j'ai été violée. Ça a été une humiliation.
Dans cette proposition de loi, plus besoin de justification et un simple formulaire administratif à déposer en mairie. Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault et rapporteur du texte, revendique une loi d'égalité.
Quand le couple s'entend, il peut effectivement mettre le double nom. Quand il y a divorce, c'est qu'un des deux parents veut mettre le nom d'usage. Très souvent, l'autre parent n'est pas d'accord. Je facilite la société, je n'enlève rien à personne.
Un combat que mène aussi Marine Gatineau-Dupré avec son collectif Porte mon nom. Mère séparée, elle veut ajouter son nom à celui de ses enfants.
À quel moment le nom de famille de la mère n'a pas la même valeur que le nom de famille du père? Quand on porte un nom qu'on n'aime pas, qu'on rejette, qui nous fait souffrir, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable.
Si le texte est adopté, la simplification du changement de nom pourrait entrer en vigueur au 1er juillet.
Devant l'Assemblée nationale, cette fois, Amnesty International organise aujourd'hui un rassemblement pour les Ouïghours à moins de 10 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. L'ONG demande l'appui des parlementaires français à la création d'un mécanisme d'enquête internationale pour les violations des droits des Ouïghours commis en Chine.
La crise en Ukraine, Washington fourbit ses armes économiques, Moscou manœuvre ses troupes.
Joe Biden a durci le ton hier, confirmant les lourdes sanctions que risquerait la Russie en cas d'attaque de l'Ukraine. Le président américain envisage même de sanctionner personnellement son homologue russe. Vladimir Poutine, lui, s'entretiendra vendredi au téléphone avec Emmanuel Macron. S'il devait y avoir une agression de la Russie contre l'Ukraine, la riposte sera là et le coût sera élevé, a affirmé le chef de l'État hier. En attendant aujourd'hui, c'est une réunion à quatre du format Normandie qui est au menu de l'agenda diplomatique. Et Clotilde Dumay.
C'est le retour du format Normandie, cette configuration diplomatique qui réunit la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. C'est ce format qui est à l'origine des accords de paix de Minsk, censé régler le conflit ukrainien en 2015. Un format qui ne semble plus vraiment fonctionner. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu Emmanuel Macron hier soir. Depuis le regain des tensions entre Kiev et Moscou, les États-Unis et l'OTAN sont devenus les principaux interlocuteurs occidentaux. Mais le chef d'État français veut donner aux Européens une place dans les discussions. Alors que les 27 jouent pour l'instant les seconds rôles. Il faut dire que les membres de l'Union européenne n'ont pour l'instant pas avancé sur la question d'une stratégie de défense commune et qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Concernant le dossier ukrainien, par exemple, l'Allemagne refuse de livrer des armes létales à l'Ukraine, contrairement à d'autres pays occidentaux.
Au Royaume-Uni, la police est désormais saisie du scandale du Partygate.
Une enquête a été ouverte sur plusieurs fêtes à Downing Street pendant les confinements. Les dernières révélations lundi concernaient l'anniversaire du Premier ministre Boris Johnson, avec une réception malgré les restrictions sanitaires. Après la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française au secours des îles Tonga, meurtrie par une éruption volcanique. Des vivres, de l'eau et du matériel vont quitter Tahiti ce vendredi.
C'était le journal de Jean-Baptiste Labeur. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'invité local de votre rédaction. Le temps pour moi de vous souhaiter un bon début de journée en ce mercredi 26 janvier 2022 à l'écoute de nos programmes, bien évidemment. Merci de votre fidélité.